en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour cette nouvelle émission en habit vert, je reçois Pierre Bronstein, membre de l'Académie des sciences dans la section chimie. Pierre Bronstein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'Université de Strasbourg. Depuis plus de 30 ans, vous êtes un acteur de premier plan dans le domaine de la chimie inorganique et organométallique. Vous avez notamment été le premier à synthétiser des clusters polymétalliques, petites particules métalliques dont le cœur est entouré de ligands organiques. Vous travaillez à la croisée du fondamental et de l'appliqué, si je puis dire. Vous nous expliquerez tout cela en détail dans quelques instants. Parmi les prix que vous avez reçus, citons la médaille d'argent du CNRS en 89, le grand prix de l'Institut français du pétrole de l'Académie des sciences en 2004 et en 2009, vous avez reçu à Amsterdam le prix Descartes-Huygens décerné par la Royal Netherlands Academy of Arts and Science. Je cite trois prix parmi beaucoup d'autres. Au cours de cette émission, nous allons revenir sur les grands moments qui jalonnent votre carrière, vos rencontres, sur votre idée aussi de l'attractivité de la France. Nous verrons cela en dernière partie de notre émission, mais ne brûlons pas les étapes. Selon l'expression, on dit qu'on choisit sa destinée. Est-ce votre cas, Pierre Bronstein ?
C'est une très bonne question. Elle n'est pas facile. Il y a un certain pourcentage de choix, très certainement. Je suis né à Mulhouse, j'ai fait ma scolarité à Mulhouse et il existait depuis 1822 une école de chimie très connue, l'école de chimie de Mulhouse, l'école supérieure de chimie de Mulhouse, elle n'était pas encore nationale à cette époque, qui avait été créée initialement grâce à des industriels qui voulaient bénéficier de chimistes formés sur place, en particulier dans le domaine des colorants, des textiles qui étaient la grande spécialité de la région. Et j'ai eu la chance d'avoir au lycée des enseignants. C'est souvent sur eux que reposent un certain nombre de vocations, tout au moins de choix qu'on fait ultérieurement, qui dans le domaine des sciences expérimentales et en chimie en particulier, m'ont plu, m'ont intéressé au sujet, à la matière. Et donc, quand s'est posée la question du choix, quoi faire après le bac Mathélem, ça s'appelait comme ça encore à cette époque-là, eh bien, l'idée de faire une classe préparatoire pour entrer à l'école de chimie de Mulhouse ne me paraissait pas absurde, même assez attrayante. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette école de chimie à Mulhouse.
Et votre environnement familial est...
L'environnement familial a certainement dû y contribuer un peu, bien qu'il n'y ait pas eu de chimiste dans ma famille. Mais du côté paternel, mon père lui-même et ses frères étaient tous de formation scientifique. Et sans doute, cela aussi a joué un rôle. Peut-être un message subliminal en disant qu'une carrière était peut-être plus attrayante du côté des sciences que dans d'autres secteurs. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, je me suis lancé dans la chimie mulhousienne.
Alors avançons, poursuivons dans les étapes. En 1969, vous intégrez l'Institut d'économie appliquée de Strasbourg.
Oui, tout à fait. Ça, c'est un détour qui peut paraître surprenant. Il se trouve qu'en dernière année d'école de chimie, c'était encore une scolarité de 4 ans à l'époque, il y avait des cours de management, de gestion, de droit, en plus des cours de chimie, de génie chimique, etc., qui étaient en quatrième année. Et j'avais beaucoup aimé ce genre d'ouverture. Et puis, comme j'étais assez jeune, j'avais mon diplôme à, je crois, moins de 22 ans, je ne me voyais pas rentrer dans l'industrie tout de suite. Ça me paraissait pas très sérieux, pas très crédible. Je me suis dit donc, je vais faire une année de perfectionnement dans ce domaine-là. Ça sera toujours utile pour une carrière industrielle. Donc, je suis allé à Strasbourg, puisque je ne pouvais pas faire ce cursus à Mulhouse. Et quand je me suis rendu compte que les heures de cet institut d'économie appliquée aux affaires étaient, les horaires étaient plutôt, plus exactement, de 4 à 7 tous les jours et le samedi toute la journée, je me suis dit, mais le reste du temps, il y a moyen de faire quelque chose. Et donc, j'ai cherché un laboratoire pour démarrer une thèse à Strasbourg. Mais la motivation, c'est vrai, vous avez raison, c'était cet institut d'économie appliquée aux affaires.
Donc deux activités en parallèle.
Deux activités en parallèle, tout à fait.
Et l'Institut d'économie vous servira plus tard ?
Ah, il servira beaucoup, il servira au quotidien, il servira également dans le domaine du privé, la gestion de son temps, la gestion de moyens en vue d'atteindre des objectifs. C'est quelque chose qui touche toute activité, quelle qu'elle soit, plus noble ou moins noble. On a toujours des moyens à disposition qui sont limités, qu'il faut donc optimiser en vue d'un objectif quel qu'il soit.
Alors,
c'est la définition de la gestion. Ce n'est pas très compliqué, c'est plus dur à mettre en pratique.
L'Institut d'économie d'un côté et puis le laboratoire de l'autre, où là vous allez entamer une thèse.
Tout à fait.
Qui porte sur quoi ?
Qui porte sur des complexes organométalliques la liaison métal-métal. Alors, c'était un sujet dont j'ignorais tout.
Quand je suis arrivé dans ce laboratoire. C'est votre directeur de thèse qui vous a donné ce sujet-là.
Voilà. Je suis arrivé à Strasbourg, je ne connaissais personne. D'ailleurs, les Mulhousiens ont dû être étonnés, puisque j'avais le choix de thèse très intéressante et très bien payée à Mulhouse, qui était liée en partie à mon rang de sortie. Mais ce n'était pas du tout la partie scientifique qui était ma motivation, comme je vous l'ai dit, c'était cet institut de gestion. Donc à Strasbourg, je me suis dit, ben, je vais essayer de voir qui je pourrais rencontrer pour que le reste de la journée, je puisse le passer de manière intéressante et utile. Et je suis tombé dans un laboratoire où j'ai retrouvé par hasard un ancien camarade d'école mulhousien qui lui avait fait l'université. Il avait donc terminé un an plus tôt que moi, puisque l'école d'ingénieur, c'était 4 ans. Il m'avait dit, oui, c'est sympathique, tu verras, on peut faire quelque chose. C'est une petite équipe, on était 3. Et le sujet que m'a proposé mon directeur de thèse, Jean Dehan, était le résultat direct de son année de postdoctorat qu'il avait effectué lui-même assez tardivement aux États-Unis, à la Northwestern. Donc travailler sur des composés moléculaires, c'est-à-dire définis, des produits typiquement solubles dans des solvants organiques, mais qui contiennent des liaisons entre atomes métalliques. Donc ce n'est pas du tout l'état métallique tel qu'on l'entend, un petit morceau de métal. Ce sont, si vous voulez, des composés dans lesquels le métal est entouré de ce qu'on appelle des ligands qui rend le tout soluble et qui donne bien sûr à ces molécules des propriétés très différentes de celles du métal solide, massique, tel qu'on le connaît par ailleurs.
Vous travaillez pendant 2 ans au sein de ce laboratoire ?
Tout à fait, je travaille pendant 2 ans. Le sujet, on m'avait annoncé, était risqué, comme on dit dans notre jargon, casse-gueule. Et la personne d'ailleurs qui avait travaillé 1 an sur ce sujet avant moi partait. J'avais juste croisé dans l'ascenseur pour me dire « Quand tu viens en septembre, surtout ne prends pas ce sujet-là. » Et quand je suis arrivé en septembre, c'est le sujet sur lequel on m'a demandé de démarrer. Donc j'avais un petit peu d'appréhension, mais ça s'est bien passé. Et effectivement, j'ai pu soutenir ma thèse de docteur ingénieur en 2 ans, parce qu'effectivement, les molécules étaient originales. C'était des liaisons qu'on crée pour la première fois. Des liaisons chimiques qu'on crée pour la première fois entre des métaux tels que le platine, le molybdène, ou le palladium, le molybdène, le cobalt, enfin les métaux qu'on appelle des métaux de transition dans le tableau périodique, et qui étaient en soi des petites premières. Donc ça m'a permis de mettre mes pieds dans un domaine qui était en pleine, qui commençait à bouger chez nous, très peu en France, beaucoup plus aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Allemagne.
En vous collant ce sujet, est-ce qu'on n'essayait pas de vous tester un peu ?
Oh, je ne crois pas que c'était aussi pervers que ça. C'était un sujet dont il avait eu l'intuition, je pense que c'était un sujet intéressant. Il avait vu aux États-Unis que ça excitait un petit peu les gens, qu'il se passait beaucoup de choses au niveau international. Et donc, l'envie de continuer dans la lancée de ce qu'il avait démarré. Mais lui-même avait fait un postdoctorat tardif aux États-Unis. Donc, il était tout à fait détendu par rapport aux enjeux pour sa propre carrière. Donc, j'ai eu la chance folle d'avoir un directeur de thèse qui m'a pratiquement toujours laissé faire ce que je voulais.
Alors, donc, succès de cette thèse, vous poursuivez donc par un postdoc que vous faites à Londres, en Grande-Bretagne.
Tout à fait. À cette époque-là, j'étais toujours pas certain de ce que je ferais ultérieurement, industrie ou recherche. Dans tous les cas de figure, il me semblait intéressant d'avoir une expérience internationale. L'Angleterre était très attrayante. Il y avait un certain nombre de mécanismes de bourses qui existaient entre la Royal Society anglaise et le CNRS. Je n'étais pas au CNRS, mais c'était ouvert à des gens qui venaient de faire leur doctorat. Et donc, j'ai candidaté à une de ces bourses. Ceci étant, pour l'anecdote, mon premier choix avait été de candidater auprès de la Fondation Humboldt en Allemagne pour faire un postdoc en Allemagne. Mais au moment où j'ai candidaté, je n'avais pas encore mon doctorat. Et ne pas être docteur, c'est-à-dire DR point devant votre nom, était à ce moment-là encore un peu rédhibitoire. C'était trop tôt, on m'avait dit « reposez votre candidature l'année prochaine quand vous aurez le doctorat en poche ». Donc à la place, je suis allé en Angleterre et ça s'est avéré très positif. Puisqu'ultérieurement, comme vous le savez peut-être, j'ai pu quand même aller en Allemagne. Et je dis souvent à mes étudiants, si vous avez un premier échec, peut-être qu'il cache des succès derrière. Donc ne vous morfondez pas. C'était finalement extrêmement bénéfique d'avoir commencé par l'Angleterre et à faire ensuite l'Allemagne, plutôt que l'inverse. Une des raisons, c'est que plus tard, eh bien, le responsable du laboratoire dans lequel je suis allé à Londres, à University College, Ron Nyholm, qui était une très grande figure de la chimie inorganique, n'aurait plus été là puisqu'il est décédé pendant mon stage postdoctoral d'un accident de voiture, tout bête. Ce qui a été un choc terrible et pour le département et pour la science britannique et internationale. C'était une très grosse perte.
Donc vous n'avez pas vraiment connu le professeur Nyholm ?
Je l'ai connu pendant quelques semaines. Et j'avoue que j'ai beaucoup de regrets d'avoir pas pu parler davantage avec lui. Un, parce que mon anglais était scolaire. Deux, parce qu'il avait un accent australien qui ne facilitait pas les choses, mais c'était une personne qui avait l'art de vous mettre à l'aise et on sentait un très grand bonhomme, comme on dit.
Là-bas, sur place, alors il n'est plus de ce monde, mais vous marchez un peu sur ses traces.
Tout à fait, je continue quand même le sujet qu'on avait défini a priori, sur lequel je devais travailler, qui impliquait de la chimie de l'or. Et là encore, dans l'extension de ce que j'avais fait avec le platine et le palladium à Strasbourg, faire avec l'or des composés voisins à liaison métal-métal entre or et métaux de transition, manganèse, molybdène, cobalt, etc. Et j'ai passé pratiquement l'année à Londres à préparer les produits de départ qui m'étaient nécessaires dans la chimie de l'or, parce qu'il n'existait pas, des composés pourtant très simples, des halogénures d'or 1, degré d'oxydation 1. Et il est amusant de constater que maintenant, plus de 30 ans après, la chimie de l'or, il y a un engouement extraordinaire pour la chimie de l'or, en particulier pour la catalyse, c'est-à-dire l'utilisation de métaux de manière pérenne pour catalyser, pour faciliter une réaction, alors qu'à l'époque, tout le monde était absolument certain que l'or étant inerte par définition, d'où les alliances, et cher, il ne serait jamais utilisé pour une application chimique. Comme quoi, on peut beaucoup se tromper quand on veut faire des prévisions de ce type.
Alors, justement, arrêtons donc quelques instants sur la chimie de l'or. Il paraît un peu curieux que l'on découvre la chimie de l'or. Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et justement, pour parler des applications, on va dire, parce que vous savez, on aime bien aussi savoir un peu quelles sont les applications. Pour parler des applications de cette chimie de l'or, on retrouve dans un article du CEA, l'article Technos, en juillet 2007, numéro 86, sur la chimie de l'or. Ces derniers servent à produire des mousses organiques dopées au précieux métal pour constituer des cibles laser de puissance, une technologie applicable dans les secteurs de la catalyse, vous en parliez à l'instant, des énergies renouvelables et en médecine, donc à chaque fois un large éventail et qui pourrait, je crois, aussi remplacer en partie la platine.
Alors, je ne sais pas si dans le domaine de la catalyse, tout ce que sait faire le platine pourrait être fait de la même manière par l'or. Mais il est certain qu'il y a un certain nombre de similitudes entre ces métaux nobles, comme on les appelle. Il y a des domaines d'application du platine, par exemple dans le réformage catalytique, le cracking de pétrole, où je pense qu'il restera un élément de choix. Je ne le vois pas pour l'instant se faire remplacer par l'or. Mais il y a beaucoup de domaines de la catalyse homogène, c'est-à-dire le catalyseur est soluble dans le milieu de la réaction, où l'or fait des choses tout à fait remarquables et que maintenant les organiciens utilisent de plus en plus pour des réactions de transformation purement organiques, mais en présence de sel d'or.
Alors, aparté, parenthèse fermée, revenons en Grande-Bretagne. Vous restez quelque temps en Grande-Bretagne avant de revenir à Strasbourg.
Oui, tout à fait. Donc, à la fin de cette thèse de post-doctorat, en fait, quand j'avais quitté Strasbourg pour aller à Londres, mon directeur de thèse m'avait demandé si j'étais d'accord qu'il me présente au CNRS. J'ai dit oui, pourquoi pas, puisque j'avais de toute façon pas d'option encore ferme devant moi. Et coup de chance, c'était peut-être une époque plus heureuse que maintenant, ça a marché du premier coup. Donc je suis rentré au CNRS et je vais prendre mes fonctions au 1er octobre à Strasbourg, mais j'étais déjà parti à Londres ce jour-là. Donc j'étais parti en fait avant que les papiers administratifs ne soient parfaitement signés. Enfin, j'étais donc en détachement à Londres. Donc quand je reviens à Strasbourg...
Vous êtes chargé de recherche.
C'était stagiaire à l'époque, ça commençait stagiaire de recherche. Et je reviens pour ensuite continuer sur la chimie de l'or que j'avais abordée à Londres, ce que je voulais y faire en fait initialement, et que je n'avais pas eu le temps de terminer parce que tout ce travail sur les précurseurs de sel d'or avait été plus long que prévu. Donc pour faire ces fameux composés à liaison métal-métal de l'or que j'ai fait à Strasbourg et qui m'ont permis de soutenir mon doctorat d'État, qui existait encore à l'époque, en fin 1974.
On marque une courte pause, si vous voulez, Pierre Bornstein. On revient dans quelques instants pour parler de Munich cette fois-ci. A tout de suite.
À l'âge de 20 ans, Lucien Clergue séduit Pablo Picasso avec ses photographies. Il devient ensuite l'ami de Jean Cocteau et de Saint John Perse. Mondialement connu pour ses séries sur les nus, la tauromachie et les tziganes, il est le premier photographe à entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Cet entretien exclusif est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Suite de notre émission En habit vert consacrée à Pierre Bornstein. Pierre Bornstein qui est avec moi au studio de Canal Academy. Nous étions à Londres, nous sommes revenus à Strasbourg où vous devenez donc stagiaire au CNRS. Et donc vous partez grâce à la fondation Humboldt à Munich.
Voilà, c'est un deuxième post-doc en quelque sorte. que j'ai eu la chance de faire grâce au financement de la Fondation Alexandre von Humboldt, qui est une fondation tout à fait remarquable, qui dans le monde entier fait beaucoup d'heureux et beaucoup d'envieux, parce que c'est une structure dont on aimerait bien se doter. Et la Fondation Kassler, dont on parlera peut-être tout à l'heure, a été largement inspirée par ce que la Fondation Humboldt est et représente pour l'Allemagne et son rayonnement mondial. Donc effectivement, ma demande avait porté sur un laboratoire allemand déjà très connu, bien visible, qui était à Munich, à la Technische Universität, celui du professeur Fischer, Ernst Otto, donc E.O. Fischer, comme on l'appelle dans notre communauté, qui travaillait principalement sur les composés carbéniques, donc des composés dans lesquels on a une liaison métal-carbone double, si l'on peut dire, et qui porte sur des composés carbonylés, donc des métaux liés à des ligands CO, l'oxyde de carbone. Il faut dire que Munich avait été un des berceaux les plus importants de la chimie des carbonyles. Son propre prédécesseur, Walter Hieber, avait été l'inventeur d'un très grand nombre de métaux carbonyles. Donc véritablement, cette chimie-là était une chimie munichoise, sans aucun doute là-dessus. Les métaux carbonyles n'ont pas été étudiés qu'à Munich, ils ont été beaucoup étudiés aux États-Unis, en Grande-Bretagne. L'un des noms auxquels on pense souvent lorsqu'on parle métaux carbonyles et qu'on interroge les étudiants et qu'on leur demande quel est le père des métaux carbonyles, ils vous diront toujours, enfin quand ils vous donnent une réponse, ils vous diront que c'est Ludwig Mond, M-O-N-D, qui était né en Allemagne et qui a ensuite demandé la nationalité britannique. Il a fait sa carrière en grande partie industrielle avec beaucoup de succès en Angleterre. Et il avait découvert le nickel tétracarbonyle, et donc qui est un liquide très volatile, ce qui avait conduit à une appellation assez poétique de cet homme. Il avait donné des ailes au nickel, parce qu'effectivement, ce nickel carbonyle peut être déposé. C'est d'ailleurs un des moyens de purifier le nickel avec des degrés de pureté inégalés, puisqu'en le transportant facilement et en décomposant ensuite ce composé carbonyle, les ligands CO s'en vont, il reste du nickel ultra pur. Donc c'est un moyen de purification, pas très vert, mais extrêmement efficace du nickel. Ceci étant, le véritable père des métaux carbonyles n'est pas Mond, c'est quelqu'un qui, 20 ans avant lui, a synthétisé les premiers composés carbonyles, du platine, et qui est Schützenberger, qui était né à Strasbourg en 1829 et qui a été directeur de l'école de chimie de Mulhouse, dans laquelle j'ai moi-même étudié. Il a fait beaucoup de chimie organique et j'avoue, et je m'en suis d'ailleurs plaint ultérieurement, que pendant mes 4 ans de scolarité à Mulhouse, on n'a jamais dit que Schützenberger était véritablement le père des métaux carbonyles. Donc les composés du platine, les chloroplatines carbonyles, ont été découverts par lui 20 ans avant le nickel tétracarbonyle de Mond. Et ça a été publié, entre autres, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, au bulletin de la Société française de chimie, mais dans tous les ouvrages qui sont en général les ouvrages anglo-saxons, on ne mentionne toujours que Mond.
Alors, voilà,
je ferme la parenthèse. Voilà, je ferme la parenthèse pour dire qu'effectivement, à Munich, ce travail sur les carbènes avait été extraordinaire, extrêmement intéressant. Et au moment où je suis arrivé à Munich, venait d'être découvert une nouvelle famille de composés dans le labo de Fischer, les carbines, où cette fois, il y a une liaison triple entre un métal et le carbone. Ceci paraissait complètement inattendu, voire invraisemblable, et pourtant. Et c'était là encore une découverte en partie liée au hasard. C'était en voulant faire d'autres types de composés qu'ils sont tombés sur cette molécule-là. Et à force d'analyse et de compréhension, ils ont ensuite tous basculé sur la synthèse de ces métals-là, carbines, si l'on veut dire, qui sont des molécules extrêmement intéressantes.
Et c'est sur quoi vous avez travaillé avec Ernst Otto Fischer ?
Voilà, tout à fait. J'ai eu le privilège d'être le premier étranger à pouvoir travailler sur les carbines. C'était un domaine extrêmement chaud et le passé de Fischer l'avait rendu un petit peu méfiant vis-à-vis de la concurrence, et c'est un domaine relativement confidentiel. Donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur ce domaine-là. Mais c'est sur le travail qu'il avait fait antérieurement sur ce qu'on appelle les composés sandwich, ferrocène, chromocène, donc des composés dans lesquels un métal est pris en sandwich par deux noyaux aromatiques, qu'il a partagé le prix Nobel de chimie avec Wilkinson de Londres.
En 73,
tout à fait.
Sur votre fiche biographique, on peut lire que c'est à ce moment-là que vous créez, vous découvrez les premiers clusters moléculaires.
Oui, alors ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Et c'est une information qui traîne un peu à gauche, à droite, mais qui n'est pas correcte. Dans le prix des cartes, ils m'ont mis ça aussi sur la fiche, mais ce n'est pas vrai. J'ai travaillé
sur
de nouveaux clusters moléculaires en particulier des clusters mixtes, c'est-à-dire dans lesquels les métaux ne sont pas tous de même nature chimique. Mais les premiers clusters y avaient été synthétisés précédemment par d'autres personnes bien longtemps avant moi. Donc j'ai contribué effectivement à la mise en place d'un certain nombre de nouvelles molécules, de nouveaux clusters mixtes, de premiers alliages moléculaires, comme je les ai appelés rapidement, pour faire comprendre aux non-spécialistes que le cœur métallique, c'est ce qui définit un cluster, est formé de métaux de nature chimique différente, palladium, molybdène par exemple, entouré toujours de nos petites molécules organiques qu'on appelle les ligands, qui rend le tout soluble. Donc c'est un moyen de solubiliser, si vous voulez, des petits morceaux de métal, de la même manière que Mond avait donné des ailes au nickel en l'affublant de ligands carbonyles.
Voilà, comme ça vous avez bien expliqué en l'espace de quelques mots ce qu'est le cluster.
Voilà, un agrégat, c'est un petit ensemble métallique.
Donc vous travaillez sur ces clusters, nouveaux clusters. Quelles vont être leurs applications ?
Alors à l'époque où j'ai démarré ce travail-là, j'étais donc revenu à Strasbourg, toujours au CNRS, que je n'ai d'ailleurs pas quitté. Et l'idée, c'était déjà sur le plan purement fondamental de se demander si de telles molécules pouvaient exister. Les synthèses n'étaient pas du tout prévisionnelles. On savait, en mélangeant un certain nombre de réactifs dans des conditions particulières, sous azote parce que les produits sont sensibles à l'air, ça s'oxyde très facilement, à froid parce que thermiquement, ils se décomposent si on le fait à température ambiante. Donc, il y avait quand même une petite batterie expérimentale à mettre en place, mais que j'avais parfaitement bien apprise à Munich puisque là-bas, c'était routine, alors que quand je suis revenu à Strasbourg, c'était loin de l'être. D'ailleurs, le souffleur de verre, au début, était tout à fait excité de me faire ce que je lui demandais de faire. Après, il était moins heureux parce que tout le monde voulait voir la même chose. Donc ça a donné beaucoup de travail. C'était simplement de voir sur le plan fondamental, est-ce qu'on peut associer des métaux les uns aux autres et faire des molécules qui les contiennent. À titre d'exemple, si vous prenez l'état métallique, l'or et le ruthénium, je prends juste ces deux métaux, on ne peut pas former d'alliage. Ils ne s'allient pas entre eux à l'état métallique. On ne peut pas faire d'alliage or-ruthénium. Par contre, on peut faire des clusters moléculaires qui contiennent ces deux métaux dans le cœur métallique. Ce qui veut dire qu'à l'échelle moléculaire, sont possibles des combinaisons qui, dans l'état massif, le métal métallique, ne le seraient pas. Et donc, c'est assez intéressant sur le plan fondamental. Il va y avoir de nouvelles liaisons chimiques. Donc, qui dit nouvelles liaisons chimiques dit forcément nouvelles propriétés, même si on ne peut pas les prévoir. Et donc, notre point de départ était purement connaissance fondamentale. Est-ce que c'est possible ? Les synthèses n'étaient pas forcément prévisionnelles. Donc, on fait des mélanges, on essaie de comprendre ce qui se passe, on purifie, on cristallise et ensuite, on analyse pour dire, tiens, ben là, il y a quelque chose d'original qui est apparu. Alors c'est vrai qu'à cette époque-là, donc on est dans les années 80, aux États-Unis, beaucoup de groupes très importants travaillent sur les clusters métalliques avec comme idée principale, je dirais, la catalyse. C'est-à-dire l'idée d'utiliser ces morceaux de métal entourés de ligands comme soit des catalyseurs homogènes, c'est-à-dire qu'ils seront solubles dans le milieu de réaction, soit éventuellement comme précurseurs de petites particules métalliques qui alors seraient des catalyseurs hétérogènes, mais qu'on pourrait peut-être obtenir de manière plus contrôlée et plus reproductible que certaines autres préparations de catalyseurs hétérogènes. Et c'est effectivement cette direction-là qui m'a paru très tôt la plus prometteuse et d'utiliser, alors là c'est vrai effectivement, d'avoir pour la première fois utilisé des clusters mixtes de métaux de transition comme précurseurs de particules métalliques mixtes pour des réactions de catalyse que l'on avait identifiées grâce à une collaboration industrielle, à l'époque Pechiney-Eugène-Kuhlmann, PCUK, puis Atochem, qui était la carbonylation de dérivés nitrés organiques pour donner des isocyanates, qui est une réaction extrêmement intéressante parce que les isocyanates sont des précurseurs de beaucoup de matériaux du quotidien, les polyuréthanes, etc., et qu'une synthèse classique de ces isocyanates fait intervenir le phosgène, qui est un gaz pas forcément très recommandable, extrêmement toxique, pas vert du tout au niveau de la connotation qu'on donne maintenant au mot vert, que les industriels savent très bien manipuler avec toute sécurité, il n'y a pas de problème. Mais des alternatives éventuellement moins onéreuses seraient intéressantes. Et donc effectivement, ces catalyseurs hétérogènes qu'on a pu faire à partir de nos clusters mixtes étaient plus performants que les catalyseurs hétérogènes comparables.
Dans notre vocable de tous les jours, on parle de pots catalytiques, notamment pour les voitures. Alors, y a-t-il un lien avec les catalyseurs dont vous nous parlez ?
Il peut y avoir un lien, effectivement, puisque dans les pots catalytiques, il vous faut des particules de métal très dispersées, ce qui veut dire très petites en taille, puisque ce sont uniquement les atomes qui sont à la surface de la particule qui travaillent, en quelque sorte, pendant l'acte catalytique. Donc plus vous avez des particules petites, plus le pourcentage d'atomes en surface est élevé. Ça ne sert à rien d'avoir un gros bloc de platine dans son pot d'échappement dont seuls les atomes de surface travaillent. Un, ce serait trop onéreux. Et deux, même la réactivité dépend de la taille. Donc effectivement, tout ce qui peut conduire à des préparations homogènes de particules à taille contrôlée est quelque chose d'intéressant.
Alors, au fur et à mesure que le temps passe, vous travaillez toujours à Strasbourg. D'ailleurs,
oui,
vous y passez plus de 30 ans. Encore maintenant, vous travaillez.
Oui.
Et puis, vous développez aussi une collaboration avec l'Institut français du pétrole.
Oui, alors ça, c'est dans un domaine qui n'était pas celui des clusters, mais qui vient d'un autre domaine que j'avais démarré à ce moment-là, qui était celui de ligands organiques, principalement phosphorés, porteurs d'autres fonctions chimiques. Donc, on appelle des ligands fonctionnels et qui peuvent avoir un rôle très important dans le contrôle de la sphère de coordination d'un centre métallique. C'est-à-dire définir de manière parfaite, ou aussi parfaite que possible, l'environnement dans lequel un centre métallique va se trouver. Et certains ligands peuvent avoir des propriétés particulières de chélation, par exemple d'effet pince sur le métal, et leurs propriétés électroniques et stériques vont contrôler la réactivité de ce centre métallique. Donc si vous avez, mettons, un atome de nickel entouré de chlorure ou entouré de phosphore ou entouré de soufre, ces propriétés ne seront pas du tout les mêmes. Et donc c'est en fait faire du sur-mesure, habiller le centre métallique des ligands tels qu'il aura une propriété in fine intéressante. Et il y avait des catalyseurs qui avaient été découverts par Shell aux États-Unis et Amsterdam qui permettent de faire une réaction très intéressante qui est l'oligomérisation de l'éthylène, c'est-à-dire coupler entre elles des molécules d'éthylène, non pas pour faire du polyéthylène, mais pour faire plus court, des chaînes plus courtes, dont les propriétés sont très différentes sur le plan physique et chimique, et qui sont des précurseurs extrêmement importants pour l'industrie chimique. Et ils ont mis au point un procédé qui fait appel à des composés de nickel avec justement des ligands fonctionnels du type que celui que ceux que nous étudions, qui est un des plus gros succès de la catalyse homogène au niveau mondial. Un très gros procédé industriel, le procédé SHOP, Shell High Olefin Process. Et il se trouve que notre intérêt pour la chimie de l'éthylène était celui que l'IFP possédait déjà. Et à l'époque, c'était Yves Chauvin qui était responsable du laboratoire de catalyse homogène. Et puis, on avait commencé à regarder si un certain nombre de nos complexes ne pourraient pas avoir des activités intéressantes dans cette réaction. Nous, on était ravis parce que le laboratoire de l'IFP avait des succès considérables à son actif, avec des procédés développés au sein de l'IFP dans le laboratoire de Chauvin, qui avait déjà un rayonnement mondial, avec des dizaines d'usines qui tournaient grâce à ces procédés. Donc c'était absolument extraordinaire de se dire que là, il y avait là une compétence fabuleuse à laquelle on pouvait éventuellement accéder.
Alors au début de cette émission, je parlais de votre place entre le fondamental et l'application. Vous travaillez aussi sur des brevets, vous brevetez certaines...
Donc il y a certaines choses qu'on a effectivement brevetées, soit les catalyseurs hétérogènes dont je vous parlais tout à l'heure avec PCUK, soit avec l'Institut français du pétrole pour des catalyseurs d'oligomérisation de l'éthylène, soit d'autres molécules qu'on a découvertes bien plus tardivement, là encore en grande partie par hasard. C'est peut-être un lien entre beaucoup de choses que nous avons faites. Les choses les plus intéressantes, je crois, elles n'ont pas été prévues. C'est le bonus de la sérendipité, ou hasard heureux, qui sont des molécules, des colorants organiques à propriété électronique très particulière des zwitterions de la famille des quinones que nous avions fait avec un tout autre objectif en tête pour des ligands effectivement vis-à-vis des métaux de transition, mais on ne s'attendait pas à tomber sur cette famille de molécules qui sont des colorants. Et là, c'était un clin d'œil de l'histoire que je trouvais relativement amusant parce qu'à l'école de chimie de Mulhouse, en troisième année, on avait des centaines de colorants à apprendre parce que les colorants, c'était la grande spécialité mulhousienne. Et je me suis dit, alors jamais plus dans ma vie, je ne ferai de colorants. Et quelques décennies plus tard, me revoilà.
Vous avez été rappelé à l'ordre.
Absolument, des colorants organiques. Comme quoi, il ne faut jamais dire, on n'y touchera plus jamais. Mais enfin, c'était des nouvelles catégories de ligands intéressants que là également on a brevetées parce qu'il y avait éventuellement des possibilités d'application en colorants et également dans le domaine de l'enregistrement optique. Il y a des générations de DVD qui nécessite des contraintes très particulières. Et là encore, on avait un petit peu exploré ça avec Clarian, qui est un spécialiste des pigments et des colorants qu'on peut utiliser, en particulier dans le cadre des générations de CD qu'on appelle pour le Blu-ray, donc des rayons particulièrement puissants, donc avec une très haute résolution, donc il vous faut des particules très petites.
Et tout à fait d'actualité en ce moment, puisque c'est le Blu-ray qui a gagné le marché par rapport à une autre technologie. On marque une deuxième pause, si vous voulez bien, Pierre Bronstein. On se retrouve dans quelques instants pour parler de la fondation Kessler, cette fois-ci. À tout à l'heure.
1866 est une date clé dans la destinée de Bismarck. La Prusse devient l'Allemagne. Pour Canal Academy, Jean-Paul Bled, professeur à Paris 4 Sorbonne, spécialiste des mondes germaniques, auteur d'une biographie sur l'empereur, nous livre les moments phares de cette année dans l'émission « Un jour dans l'histoire ». Téléchargez-la sans plus tarder sur canalacademy.com.
Suite de notre émission en habit vert, toujours en compagnie de Pierre Bronstein, membre de l'Académie des sciences dans la section chimie. Dans cette dernière partie d'émission, Pierre Bronstein, nous allons parler de la fondation Alfred Kessler et à travers cette fondation de l'attractivité de la France pour faire venir des étrangers pour travailler dans le domaine de la recherche et puis aussi de la question des réseaux. Commençons par la fondation Kessler, où vous êtes vice-président de cette fondation qui existe depuis 1993, je crois.
Tout à fait, elle a à peu près une quinzaine d'années. Elle avait été créée par notre regretté confrère et ancien président de l'université Louis Pasteur de Strasbourg, Guy Ourisson, qui s'était rendu compte, m'avait-il dit tardivement, et pourtant il était sur tous les fronts en parallèle, c'était tout à fait remarquable, que nous n'avions pas en France d'outils comparables à la fondation Humboldt, dont nous avions parlé tout à l'heure, qui existe en Allemagne, et qui accueille en Allemagne des centaines de chercheurs de haut niveau, post-doc ou prof invités, qui viennent du monde entier et qui savent qu'avoir une bourse de la Fondation Humboldt, c'est extrêmement prestigieux et c'est une garantie de ne jamais être plus perdu de vue. Le réseau des anciens fonctionne très bien, on a des nouvelles régulières et on peut retourner en Allemagne, se faire réinviter. Quand on a été humboldtien une fois, comme il dit, c'est pour toujours. Et donc l'idée, c'était qu'il avait eu, a été de créer quelque chose en France. Et il a voulu commencer à faire un test de grandeur nature sur la région Alsace pour d'abord tester la faisabilité, mettre au point les mécanismes avant de l'étendre au reste de la France, de ce qui est devenu la fondation Alfred Kessler, qui a été au départ créée au sein de l'Académie des sciences, qui a ensuite été déplacée à la Cité internationale, qui a beaucoup aidé à sa gestion et à sa pérennité. Et maintenant, nous souhaitons lui donner un statut de fondation réelle. Elle porte le nom, mais elle n'a pas un statut de fondation pour l'instant, en tirant profit de la loi qu'on appelle la loi Pécresse sur les fondations partenariales. Et donc, nous sommes en train, en ce moment même, d'essayer de susciter un certain nombre d'organismes pour faire le tour de table des fondateurs de cette fondation. Et nous savons, par exemple, que la fondation Humboldt, avec laquelle on a d'excellents contacts, est tout à fait prête à nous aider de toutes ses compétences. Elle ne pourra pas contribuer financièrement parce que son statut ne lui le permet pas, mais elle est tout à fait prête à nous aider à mettre en place les outils qui nous seraient utiles. Pour l'instant, la Fondation Kessler a eu un rôle absolument décisif pour faciliter l'arrivée en France de chercheurs de haut niveau, post-doctorants, profs invités et leurs familles, aidant à des problèmes de visa qui étaient difficiles à régler jusqu'à un certain moment. Il y a toujours des difficultés latentes qui existent, ou même réelles. Les aider à s'installer, leur donner de l'information a priori pour qu'ils sachent si, lorsqu'ils viendront avec leur famille, il y a dans la ville qu'ils ont identifié un lycée international pour leurs enfants, une possibilité d'emploi pour le conjoint. Bref, beaucoup de choses qui font partie de l'attractivité. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que les gens ne peuvent pas bouger simplement comme cela pour une raison uniquement scientifique. Il y a tout un contexte qui doit aller avec et qu'il faut prendre en compte. Et c'est ce qui fait que l'accueil laissera de très bons souvenirs ou n'en laissera pas. Et donc cette première partie de sa mission, qui est l'accueil, se passe remarquablement bien. Elle est maintenant identifiée à Bruxelles comme étant l'une des instances qui a réaliser des succès remarquables dans ce domaine-là. Elle est même citée en exemple parfois, ce qui est très réconfortant. Et Ourisson, je suis sûr, le savait déjà, mais il s'en réjouirait de voir que son impact ne cesse de grandir. Par contre, la deuxième mission qu'elle s'était assignée, qui est d'assurer le suivi de ces chercheurs étrangers après leur retour dans leur pays, celui-ci est encore à faire. Cet outil-là me paraît décisif. L'attractivité, c'est très bien. Si on perd ensuite les gens lorsqu'ils ont quitté la France et rentrent dans leur pays, on a là un gâchis que je trouve dramatique, non seulement pour notre pays, mais pour le contribuable également. Nous faisons venir beaucoup de gens grâce aux grands organismes de recherche, grâce aux universités et qui financent des profs invités, des post-docs, etc. Ces gens repartent dans leur pays et très souvent perdent leurs traces. Donc on a de manière latente un réseau à l'international qui serait sans doute sensibilisé à ce qu'on pourrait lui proposer à condition qu'on ne les perde pas de vue.
Pourquoi vous êtes-vous à ce point-là impliqué dans la Fondation Kessler, puisque vous avez la fonction de vice-président? Alors on sait que vous êtes installé à Strasbourg, vous êtes à proximité, mais est-ce que c'est parce que vous étiez ancien humboldtien que vous aviez voulu mettre aussi votre marque sur la Fondation Kessler?
C'est pas tant mettre ma marque, mais essayer plutôt de l'aider à réaliser ses objectifs. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai eu la chance de tomber dans le bain de l'international très tôt. Mon premier postdoc en Angleterre, j'avais 24 ans. Ensuite, l'année en Allemagne, grâce effectivement à la Fondation Humboldt, m'ont fait très rapidement percevoir la nécessité de prendre en compte l'international. Et c'est vrai qu'en plus, la localisation de Strasbourg au cœur de l'Europe y aide par la géographie même. Mais c'est vrai que quand je regarde un petit peu en arrière, mon référentiel a très rarement été français. Il a spontanément été international parce que j'y ai travaillé, parce que les recherches que je menais étaient fortement développées à l'étranger, États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, qui étaient les pays les plus avancés dans le domaine. Et donc, naturellement, on est obligé de regarder au-delà des frontières. Et quand j'ai pu moi-même bénéficier des structures d'accueil en Grande-Bretagne ou en Allemagne, et qu'ensuite j'ai pris conscience qu'en France, peut-être nous n'avions pas l'équivalent, même certainement pas l'équivalent, j'ai trouvé ça dommage. Et de sorte que quand Tourisson m'a ensuite demandé de rentrer dans les conseils et d'aider à la Fondation Kessler, ça m'a paru évident. D'ailleurs, on pouvait difficilement dire non à Tourisson parce qu'il y avait d'excellentes raisons de vous motiver pour faire les choses. Et là encore, mais ça me paraissait non seulement une nécessité, mais un besoin réel pour notre pays. Aucune autre structure, aucun ministère ne sait actuellement garder le contact avec les scientifiques étrangers qu'ils font venir en France. Donc il y a pour moi là une gabegie dramatique et il faut absolument corriger le tir.
Parmi les personnes que vous accueillez au sein de cette fondation Kessler, je sais que peut-être chiffrer le nombre de personnes est difficile, mais juste pour avoir un ordre d'idée sur le nombre de personnes que vous visualisez, vous accompagnez, et puis également quelles sont les nationalités qui reviennent le plus souvent.
Donc ce sont des centaines de chercheurs de haut niveau qui viennent en France tous les ans. Actuellement, je crois que dans nos statistiques, les pays les plus fortement représentés sont le Brésil et l'Inde. Mais ceci étant, ce sont les gens qui s'inscrivent ou que les laboratoires d'accueil inscrivent à la Fondation Kessler. Cette inscription est bien évidemment gratuite. Elle peut se faire par Internet depuis le pays d'origine du scientifique. Donc à distance, il peut ouvrir son compte en banque. Il peut déjà souscrire à des assurances. Il peut déjà faire des tas de choses depuis chez lui pour que quand il arrivera en France, il soit effectivement accueilli et identifié. Mais donc, il y a certainement beaucoup de personnes qui, entre guillemets, échappent pour l'instant aux mailles de la Fondation Kessler. Mais ça, ce sera effectivement l'une des missions des universités, des organismes de recherche, d'utiliser les services gratuits de la Fondation Kessler pour les aider. Et je pense que les universités comprendront bien l'intérêt de la chose, puisqu'elles vont être elles-mêmes amenées de plus en plus à montrer le suivi qu'elles font de leurs anciens. Donc si une structure comme la Fondation Kessler, qui est nationale, peut les aider à mettre au point les dispositifs qu'elle a déjà en interne et les utiliser pour leurs propres besoins respectifs, elle le fera évidemment avec grand plaisir et en synergie totale avec les organismes et les universités.
Pour terminer, Pierre Bronstein, dans un entretien que vous aviez accordé au journal du CNRS, vous parlez des réseaux longs à tisser. On a l'impression qu'en parlant de ça, vous faites parler votre propre expérience et à travers ça aussi, vous parlez de la Fondation Kessler et peut-être de ce réseau à créer de la même manière que la Fondation Humboldt.
Oui, c'est vrai. Là, je crois qu'encore une fois, c'est le référentiel international qui compte. L'année que j'ai pu passer en Grande-Bretagne, j'ai côtoyé là-bas des collègues, des gens qui étaient en poste à University College, d'autres postdocs comme moi qui venaient des quatre coins du monde, de la même manière en Allemagne. Et donc, les réseaux que l'on peut créer en côtoyant des gens qui sont en train de travailler à leur carrière, en Allemagne par exemple, un certain nombre de collègues qui préparaient leur habilitation dans le laboratoire où j'étais à Munich, qui ensuite, plus tard, ont occupé des postes universitaires, titulaires de chaires dans différentes universités et villes d'Allemagne, m'ont spontanément mis au cœur d'un réseau qui était simplement les gens que j'avais rencontrés et les gens que l'on rencontre par les gens qu'on connaît. C'est une réaction en chaîne ensuite qui se développe rapidement. Et rien ne vaut la connaissance directe personnelle des gens. Donc c'est quelque chose qui n'est pas virtuel uniquement. Il faut avoir effectivement rencontré les personnes, avoir pu faire connaissance, et c'est toute la richesse de la dimension humaine que nous apporte notre travail scientifique pour lequel on bouge beaucoup, on a beaucoup de déplacements. On rencontre des individus qui sont tous différents, qui ont tous des choses importantes à dire, pas uniquement sur le plan scientifique, mais sur le plan humain, culturel, etc. Et donc ces réseaux, ça se construit à l'échelle de temps humaine, c'est-à-dire qu'il vous faut des mois et des années pour constituer un réseau. Et ce qu'on a évidemment envie, c'est que ce ne soit pas quelque chose de temporaire, mais qu'il y ait une certaine pérennité. D'où l'intérêt pour les réseaux comme la Fondation Alfred Kastler, d'où plus modestement le réseau des anciens élèves de mon école que je préside maintenant, parce que là encore, ils ont depuis le temps qu'ils existent, c'est la plus ancienne école de France, des centaines d'anciens que nous avons disséminés un peu partout en France, à l'étranger, dont on ignore souvent, d'ailleurs je dirais même le plus souvent, les fonctions qu'ils ont, alors qu'ils pourraient être extrêmement utiles aux étudiants actuels dans ces écoles. Allons. Et ceci est vrai pour toutes les écoles.
Allons, travail de généalogie, j'ose dire, au sein des écoles. Merci Pierre Bronstein. Que peut-on vous souhaiter, puisque je crois que vous travaillez encore au sein de votre laboratoire.
Bien sûr, plus que jamais, oui, tout à fait. Bien, autant de temps possible pour réaliser une partie des objectifs, sachant qu'on a toujours beaucoup plus d'objectifs que temps pour les réaliser.
Merci Pierre Bronstein.
Merci à vous.